Bonsoir. Covid-19, la RDC confirme la présence sur son territoire national du variant Omicron. Dans un communiqué publié hier lundi 13 décembre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dit se baser sur certaines données lui livrées par les scientifiques. Selon le ministre Jean-Jacques Mbungani, des instructions fermes ont été données aux différents services afin de doubler la vigilance sanitaire dans les aéroports, ports ou tout poste frontalier pour limiter l'importation du nouveau variant en RDC. Le gouvernement de la RDC confirme par la même occasion et d'après des données épidémiologiques la survenue de la quatrième vague de la pandémie COVID-19 sur son sol. Quelles sont selon vous les mesures que le gouvernement devrait prendre pour limiter la propagation du nouveau variant en RDC? Nous en parlons ce soir avec Dr Jules Kiatosi, il est expert au ministère de la Santé publique. Dr Kiatosi, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur Michel Mouvoudi, médecin expert en santé publique, il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Sans questions-réponses pour comprendre la COVID-19 », un ouvrage préfacé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Docteur Michel Mouvoudi, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Et fils Bodo, coordonnateur de la Société civile santé du Congo central, il n'est pas encore en ligne, il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Matadi dans la province du Congo central. Vous nous suivez sur la 102.2 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a annoncé officiellement la circulation du variant Omicron de la pandémie COVID-19 qui marque la quatrième vague de la maladie en RDC. Il a dit dans un communiqué publié hier lundi, 13 décembre 2021. D'autres détails de ce communiqué avec vous, Blaise Chindani.
Selon le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, tous les rapports épidémiologiques attestent une augmentation exponentielle de la circulation du virus. Par ailleurs, les données scientifiques confirment bel et bien la circulation du variant Omicron sur les territoires congolais, indique le communiqué du ministère de la Santé. Le ministère congolais de la Santé ajoute que la survenue de cette quatrième vague coïncide avec la recrudescence de la grippe saisonnière qui présente des symptômes similaires au COVID-19. Il appelle à consulter en cas de tout, à respecter les gestes et barrières et à se faire vacciner massivement pour permettre au pays d'atteindre l'immunité collective. Cependant, malgré l'augmentation des cas, le taux de létalité reste stable et la prise en charge est assurée de manière efficace dans les centres de traitement COVID-19, ajoute le communiqué. Rappelons que le gouvernement de la République a rendu public la semaine dernière une vingtaine de mesures actualisées dans le cadre du renforcement de la lutte contre la pandémie de COVID-19 au pays. Ces nouvelles mesures visent trois objectifs, notamment limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux et augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles.
Merci Blaise Chindani pour tous ces détails. Docteur Jules Kiatosi, je rappelle que vous êtes expert au ministère de la Santé publique, variant Omicron en circulation en RDC. Et pourtant, il y a quelques jours seulement, le gouvernement a annoncé que ce variant n'était pas encore présent au pays. Des mesures avaient été prises pour éviter justement l'importation de ce variant dans le pays. Faut-il conclure ou dire que ces mesures n'ont pas été efficaces pour éviter à la RDC ce variant Omicron?
Merci madame pour la question. Non, de dire que les mesures n'ont pas été efficaces pour limiter l'entrée de variants Omicron dans notre territoire. Non, il n'y a pas lieu d'y penser. Parce qu'on est à l'heure où le monde entier est attaqué. Et quand tous les pays sont attaqués, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, c'est de limiter à tout prix qu'il y ait un taux de létalité assez élevé. Mais nous étions conscients que devant la menace mondiale, Montréal, nous n'étions pas épargnés.
C'était pas possible d'éviter ces variants en RDC, par exemple, en suspendant les vols internationaux?
Dans la lutte contre la pandémie, c'est une lutte pour laquelle quelqu'un dira que la guerre est une affaire sérieuse pour être confiée aux seuls militaires. Pour ce qui est de la pandémie, il faut tenir compte de tous les paramètres, même les secteurs économiques, savoir l'impact que peut avoir une telle mesure de fermer les frontières. Je pense que par le monde, ces mesures ont montré réellement leurs limites. Actuellement, l'option des fermetures des frontières n'est plus dans plusieurs gouvernements. On n'utilise plus cette option-là. Alors, pour nous, nous savions que, avec la proximité que nous avions avec l'Afrique australe et les différents échanges, on savait que les variants Omicron pouvaient déjà être dans notre territoire, mais ce n'était pas encore notifié. Mais ce que nous sommes en train de faire avec les autres pays partenaires, c'est de voir comment limiter, comme on l'a dit dans les communiqués, limiter à tout prix que nous soyons envahis en n'ayant pas les contrôles de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais sachez que c'est une pandémie, il faut unir les efforts avec d'autres pays.
Depuis quelques semaines, on constate une augmentation exponentielle de la circulation du virus. Est-ce lié au variant Omicron?
Alors, c'est vrai que depuis, si nous prenons les données du 10 décembre, les pays ont enregistré 638 nouveaux cas. La ville de Kinshasa passe en tête du classement des provinces touchées avec 557 cas confirmés. Alors, actuellement, on vit aussi ces phénomènes des grippes saisonnières où il y a un dépistage qui s'est fait dans nos zones de santé respectives et nous voyons que on a accéléré les dépistages actifs des cas et de quoi avoir cette remontée-là. Mais nous pouvons pas encore dire que cette augmentation soit liée au variant Omicron.
Face au variant Omicron, le ministre Jean-Jacques Mbungani a annoncé que des instructions fermes ont été données aux différents services afin de doubler la vigilance sanitaire dans les aéroports, ports ou tout poste frontalier pour limiter l'importation du nouveau variant en RDC. Quelles sont ces instructions fermes? Sont-elles différentes des instructions qui étaient déjà en place?
Merci pour la question. Les mesures ont été actualisées à partir d'ici décembre 2021. Sachez que bien avant cela, on avait adopté les mêmes mesures, mais sauf que maintenant, les pays qui sont les plus touchés de l'Afrique australe, avant l'entrée des voyageurs venant de ces pays, nous exigeons que tous ces voyageurs soient soumis au test PCR COVID-19 et que ceux-là qui présentent la maladie, ils sont mis en quarantaine. Et pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs aussi de nationalité congolaise ou étrangère résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo, de présenter aussi une attestation médicale confirmant les résultats PCR COVID négatifs réalisés moins de 72 heures avant le voyage. Par l'Institut INRB. Alors, il y a le couvre-feu, la stricte application du couvre-feu de 23h à 4h du matin. Dans les transports publics, tous les passagers devaient être assis avec l'exigence de porter les masques et respecter les gestes barrières. À l'intérieur du marché, l'entrée est du marché public, l'entrée est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains, à l'eau et au savon et les ports obligatoires des masques. Les manifestations publiques se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité.
Mais ces mesures sont-elles respectées, docteur Katossi?
Non, on sait que nous avons, comme on l'a dit, nous avons besoin de la population, de tout le monde pour lutter contre cette pandémie. Actuellement, nous demandons à la population de coopérer parce que pour lutter efficacement, nous avons besoin des uns des autres. On sait que c'est un challenge pour nous tous.
Alors, en parlant de tests PCR, de plus en plus, on parle des forts résultats que les gens se procurent. Est-ce que le ministère est au courant de ce phénomène?
oui, il y a quelques jours, on a été mis au parfum de ces faux résultats et notre service spécialisé, qui est l'Inspection générale de la santé, est en train de diligenter des enquêtes pour voir comment sévir tous ces mondes qui essaient de falsifier les résultats.
Docteur Michel Mouvoudi, médecin expert en santé publique, vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Sans questions-réponses pour comprendre la COVID-19 ». C'est un ouvrage qui a été préfacé par le prof Jean-Jacques Mouyembe. Le variant Omicron en RDC, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé hier dans un communiqué. La RDC était-elle en mesure d'éviter ce variant ou il fallait s'attendre à l'avoir sur notre territoire?
Merci beaucoup, Madame Kelly. En fait, je vais aborder votre question sous un angle très obtus. En fait, le premier élément qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les pays ont commencé à détecter le variant Omicron, en fait, c'est à ce moment-là que les pays se réveillent. On se rend compte que le variant circulait déjà en Afrique du Sud. Donc, je voudrais juste que vous compreniez que au moment où on lance l'alarme, ce n'est pas au moment où le virus n'est pas encore là. Le virus peut avoir été là quelque part, mais on se rend juste compte qu'il y a un cas avec le virus Omicron. Donc, c'est très important de comprendre. C'est comme ça que, par exemple, en France, dans beaucoup de pays, quand ils ont alerté, malgré l'alarme, ils ont vu justement qu'il y avait le variant sur leur territoire. C'est comme ça que, je pense, à mon humble avis, vu le système actuel qu'on a avec le problème de rigueur de contrôle aux frontières, n'oubliez pas que la RDC, c'est plus de 400 portes d'entrée, je suis convaincu que le variant était déjà là. En tout cas, à mon humble avis, il était là, il circulait déjà parce que vous savez que la promiscuité entre la RDC et l'Afrique du Sud est une promiscuité très importante. Nous avons des voyages chaque jour, nous avons des provinces qui donnent sur l'Afrique australe. Donc, encore une fois de plus, le virus était déjà là, à mon humble avis. Maintenant, Dieu merci, deuxième point, on vient de le détecter, on vient d'être confirmé qu'il est là. Mais moi, déjà avant, je l'avais déjà conseillé à plusieurs, il faut se comporter comme si le virus circule déjà et que nous, on ne l'a pas encore vu. Si nous disons, on n'a pas l'Omicron, mais continuons à vivre comme nous vivons, c'est une erreur. Ça, c'est vraiment un élément capital. Et l'autre élément, c'est que vous l'avez mentionné un peu lorsque vous avez posé des questions à mon prédécesseur, c'est qu'en fait, la question des mesures en RDC reste une question de gouvernance. Les mesures qu'on vient de dicter, c'est des mesures, quand vous regardez, pour la plupart, on le sait, d'accord ? Et je l'ai toujours mentionné, il faut que lorsqu'on a des mesures pour pouvoir contrôler la circulation du virus, faudra assurer qu'un dispositif de gouvernance est mis en place pour contrôler et faire appliquer ces mesures. Lorsque vous parlez, par exemple, du couvre-feu à respecter, lorsqu'on parle, par exemple, du lavage de mains, lorsqu'on parle des tests au départ, des tests à l'arrivée, mais justement, on a des instruments de contrôle. La police, on a l'Inspection générale de la santé, on a les services de renseignement. Je crois que c'est là, justement, qu'on a une très grande faiblesse. C'est que les mesures sont très bonnes, mais il faudra mettre un dispositif rigoureux pour pouvoir suivre cela. Et enfin, le quatrième point, c'est juste maintenant prendre une disposition assez particulière, assez singulière, maintenant qu'on sait que le virus, le variant circule. Mais si vous comparez, et ça j'ai aimé quand même, regardez le parallélisme entre ce qu'on a maintenant et le virus Delta, déjà là, on est assez apaisé, Dieu merci, on n'a pas un taux de mortalité très élevé, à la fois parce que le virus n'est pas aussi méchant que le premier, donc l'Omicron n'est pas aussi méchant que le Delta. Deuxièmement, on a cette prise en charge qui s'est finalement structurée au niveau de certains hôpitaux, comme le ministre l'a bien mentionné. Donc, Dieu merci, les choses commencent un peu à être mieux régulées, mieux contrôlées qu'avant. À côté de cela, l'oxygène qui commence à être disponible, alors que jadis, c'était une denrée très rare. Bon, du coup, je crois qu'il faut travailler sur l'interne pour que la situation actuelle n'explose pas, d'une part, et d'autre part, réveiller encore une fois de plus ceux qui ont la responsabilité de contrôle au niveau des frontières en disant, ben, si on a déjà un virus, un variant, c'est déjà de trop, mais faites en sorte qu'on ne puisse pas laisser justement cette porosité des frontières et amener la population à des situations catastrophique. Je crois l'attitude devrait être celle-là.
En parlant des mesures, docteur Michel Mouvoudi, le ministre de la Santé a appelé la population au respect des gestes barrières et à se faire vacciner massivement pour permettre au pays d'atteindre l'immunité collective. Entre-temps, l'OMS nous dit que le variant Omicron se propage plus vite que le variant Delta, provoque des symptômes moins sévères et rend les vaccins moins efficaces.
Moi, ce que je voudrais que le commun des mortels comprenne, c'est vrai qu'un débat scientifique peut être lancé sur cette question de vaccination versus variant. Mais au moins, ce que nous savons, c'est que la vaccination protège contre les formes graves et sévères. Ça, nous savons déjà. Et ça, c'est très important. Parce que, Madame Kelly, n'oubliez pas que le virus qui circule, ce n'est pas que le variant. Les autres souches circulent aussi, y compris le variant. Ça veut dire que se faire vacciner, ça nous donne déjà un gain, un bénéfice vis-à-vis des autres virus qui circulent. Parce qu'il n'y a pas que le variant. Ça, c'est le premier élément. Donc, du coup, la vaccination doit monter en puissance. On est à 0,1% de couverture vaccinale, très faible par rapport même à la moyenne africaine. Donc ça, ça reste important. Deuxièmement, c'est vrai que le virus n'est pas dangereux. Non, on ne sait pas jusqu'où il peut nous amener. Donc, il ne faudra pas que nous restions attentistes en disant, ben, on a dit qu'il n'est pas mauvais, on a dit qu'il n'est pas très, très virulent. Mais attention, c'est un virus. Il a commencé ses effets. On ne sait pas jusqu'où il peut aller. Donc, en tant que tel, nous devons être prévoyants et vigilants. Et donc, pour moi, j'ai toujours conseillé à la population ce principe de péché par excès et non par défaut. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que le virus est, peu importe ce qu'on nous dit, nous devons nous renforcer les gestes barrières, nous devons nous faire vacciner. Ok? On pêche par excès. Si demain on nous dit, mais écoutez, le virus n'était pas aussi virulent qu'on le pensait, Dieu merci. Mais pour le moment, ne le connaissant pas suffisamment, ok? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, étant dans une situation de grippe, d'épidémie de grippe, parce que rappelez-vous, Madame Kelly, c'est encore une fois de plus autour de cette période en 2019 qu'on avait la même dynamique épidémiologique. Et donc, du coup, restons vigilants et pêchons par excès. Nous ne perdons rien en observant justement ces mesures barrières, en nous faisant vacciner, parce que en dehors de l'Omicron, il y a d'autres, ok, souches de virus qui circulent et qui peuvent entraîner justement les gens à la mort.
Docteur Jules Katossi, à Rémi Lokonga qui nous écrit depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Il pense que la présence du variant Omicron sur le territoire congolais se traduit par le manque de contrôle efficace au niveau de nos frontières et par l'inefficacité des services sanitaires à bien contrôler les flux des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le ministre de la Santé ne devrait pas attendre que ce nouveau variant pénètre sous le sol congolais pour prendre ou donner des instructions qu'il qualifie de fermes. Il devait le faire bien avant que ce variant n'atteigne notre pays.
Le ministre n'a pas entendu qu'il y ait la présence de variants Omicron. Comme Dr Michel venait de le dire, la présence de variants, quand on lance la présence d'un variant, les variants existent déjà, mais on venait de les notifier. On venait de les notifier dans notre pays, mais il se pourrait que ça soit déjà en circulation. On sait que notre pays, c'est à la dimension d'un continent. N'oublions pas que quand la pandémie a commencé à COVID-19, on est dans un système un système de santé faible et cela nous a trouvé avec nos différents problèmes au niveau des frontières et nous sommes en train de lutter ensemble. Donc la lutte contre la pandémie, je le répète, c'est pas simplement l'affaire du ministère de la Santé. Quand vous parlez des frontières, il y a l'immigration qui intervient. Quand nous parlons des couvre-feu, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc c'est l'affaire de nous tous et la population. C'est comme cela que si nous unissons nos efforts, nous pouvons lutter efficacement contre cette pandémie.
La vaccination est un moyen par lequel on peut lutter efficacement contre cette pandémie, docteur Kiatoussi.
Oui.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la campagne de vaccination? Est-ce que ça évolue bien? Est-ce qu'il y a engouement?
Bien sûr, il y a engouement après la vaccination du couple présidentiel. Il y a eu son Excellence le Premier ministre. S'est fait vacciner, il a reçu sa deuxième dose la semaine dernière et les différents ministres l'ont fait et on le voit de plus en plus. Si vous y allez à l'INRB, un peu partout, vous allez voir, il y a un engouement, la population adhère de plus en plus, mais on doit le dire de manière, on est encore en deçà de la moyenne africaine, on est autour de 0,1% de couverture, c'est encore faible pour créer une immunité collective, nous le savons, et il y a des initiatives qui sont entreprises, il y a eu la table ronde qu'on a organisée il n'y a pas longtemps, et il y a d'autres initiatives qu'on met en place pour que nous puissions très vite booster la vaccination. C'est le seul moyen actuellement pour lutter contre les formes sévères de cette maladie.
Mais le taux reste quand même très faible. La RDC est parmi les pays les moins vaccinés. Comment faire adhérer la population à cette campagne de vaccination?
Oui, jusque là, je l'ai dit, ça représente... nous sommes en train de remonter petit à petit et les efforts sont en train d'être menés. On est en train de finaliser un budget pour des campagnes qu'on va organiser, les campagnes de masse qu'on va organiser prochainement. Et je pense que tous les moyens sont mobilisés pour que la vaccination se fasse, qu'on puisse multiplier les sites de vaccination. Parce qu'actuellement, il y a 13 provinces où nous avons placé les sites de vaccination. On va progressivement les étaler à 26 et je crois avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers.
Docteur Michel Mouvoudi, on a parlé des mesures barrières pour limiter la propagation de la COVID-19. Que faut-il pour une meilleure application de ces mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie?
Sur cette question, Madame Kelly, je vais répéter encore une fois de plus ma triade que je n'ai cessé de donner chaque fois que vous m'avez invité sur la radio Capi. Donc le premier pilier, c'est vraiment la communication pour le changement de comportement, la sensibilisation. Encore une fois de plus, je n'ai cessé de le dire, on n'y arrive jamais sans la communauté, on n'y arrive jamais sans l'engagement communautaire. Donc il faudra continuer à intensifier cette communication, cette sensibilisation. Madame Kelly, et ça je l'ai toujours mentionné, n'oubliez jamais que le changement de comportement est un processus. Avec aussi toute la fatigue, toutes les questions sociaux-environnementales qui nous entourent, écoutez, il faut toujours revenir sur ça. J'ai toujours donné une petite image. Ok, on sait très bien que il faut prier pour aller au ciel. On sait bien que Dieu existe, mais pourquoi nous allons à l'église chaque dimanche? C'est parce que justement le fait d'être enseigné, le fait d'écouter, ça permet justement aussi de modifier des comportements. C'est la même chose en santé publique. Donc il faut pas se fatiguer, il faut continuer. C'est comme ça que aujourd'hui, malgré que nous savons que Dieu existe, nous allons quand même à l'église écouter la parole de Dieu. C'est parce que à force d'écouter, on change. Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, encore une fois de plus, Madame Kelly, il y aura toujours des récalcitrants. Ça manque pas. Hein. Il y aura toujours des gens, malgré cette communication, malgré cette sensibilisation, il y aura toujours des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a toujours des gens qui vont dire, moi, ma religion, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, bon, moi, je ne peux pas me faire vacciner parce que je suis déjà vacciné par le sang de Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est sa réponse, c'est sa croyance. Donc, avec ça, il faudra utiliser des mesures qui vont pousser les gens à respecter la règle. Et ça, c'est très important. J'ai toujours encore donné un exemple. Hein, on sait très bien que les gens peuvent accepter de ne pas faire le mal, mais l'enfer existe quelque part. La prison existe quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui ne vont pas comprendre. C'est pourquoi le deuxième pilier reste le suivi des mesures, l'application des mesures. Éviter ce diastasis, un peu en termes simples, cet écart entre ce qu'on prescrit, ce qu'on dit, ce qu'on veut, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, les outils de gouvernance que nous avons, la police et autres, je reviens, ont un rôle à jouer pour contraindre les gens à mettre le masque, pour contraindre les gens, n'est-ce pas, à respecter les mesures barrières de manière globale. Et le troisième pilier, ça reste la sanction, madame. Je crois que nous avons quand même un pays, nous avons un État. Ok, nous avons des institutions de l'État qui ont la charge de veiller à ce que les règlements, les prescriptions régalienne soit respectée. Vous êtes gouverneur, vous êtes bourgmestre, vous êtes, je ne sais pas moi, ministre, vous êtes provincial, national, mais je crois que toute personne qui a une responsabilité dans ce pays, n'est-ce pas, doit définir sa contribution à l'application des mesures. Donc, la sanction doit être là. Il faut sanctionner. Moi, je pense que dans les systèmes où il y a de l'impunité, où on ne sanctionne pas les gens qui ne respectent pas, tout simplement, le mauvais exemple commence à phagocyter le bon exemple. Ceux qui mettaient les masques ne mettent plus. C'est, parfois, vous avez, je donne un exemple pour la vaccination. Un personnel de santé qui se fait pas vacciner, mais on le laisse venir à l'hôpital. Mais quel est le message que lui va donner à ce malade qui vient le consulter ou qui lui demande un conseil? Donc, à un moment donné, les Congolais, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Ça veut dire que nous devons donner l'exemple. Je suis médecin moi-même, je me fais vacciner et sur ça, je dis aux autres, faites-vous vacciner. Mais vous avez des médecins qui se font pas vacciner, vous avez parfois ceux-là même qui représentent l'État, ils organisent des séances, des rassemblements où visiblement il n'y a aucun respect des mesures barrières. Mais comment voulez-vous que les autres puissent suivre l'exemple? Et c'est comme ça que je martèle sur la sanction. Il faut sanctionner. Dès que les gens verront qu'on commence à sanctionner, on ferme des supermarchés, on ferme des bars, on ferme des boutiques où les gens n'ont pas l'eau pour se laver les mains, où les gens ne prennent pas la température, où les gens ne mettent pas les masques. Mais vous allez voir que cette sanction va corriger les autres. Pour moi, ça reste le trépied fondamental pour arriver à avoir des progrès. Donc, la sensibilisation, deuxièmement, le suivi des mesures en termes d'application, et troisièmement, la sanction.
La sanction, la réalisation me signale qu'on n'arrive pas à joindre Fils Bodo, coordonnateur de la société civile santé du Congo central. À la place, nous avons Danny Singoma. Il est directeur général du CNADEP et coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19. Danny Singoma, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Le variant Omicron en circulation sur le territoire national, cette annonce a été faite hier lundi par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Quelles sont, selon vous, Danny Singoma, les mesures que le gouvernement devrait prendre pour limiter la propagation du nouveau variant en RDC?
Merci de m'associer à ce débat. Et je n'ai pas suivi le débit, mais j'ai suivi ce que le docteur Michel a dit. Et je suis complètement dans sa ligne. J'épouse complètement tout ce qu'il a dit par rapport au changement de comportement et tout, et aussi ce que le gouvernement devait faire par rapport à la sanction et aussi. Mais il y a aussi un point très nécessaire. Le gouvernement doit mettre aussi l'accent sur la prise en charge correcte du personnel commis à la riposte. Parce que nous avons remarqué toujours quand le personnel doit se mobiliser, il y a toujours un problème de salaire, il y a un problème de primes et tout ça, et ils sont sujets parfois à laisser tomber certaines mesures qu'ils doivent même garantir. Et ça, c'est dommage. Nous avons vu, par exemple, la fois passée, quand la commune de la Gombe était confinée, il y a des gens qui entraient à Gombe en soudoyant un peu ceux qui sont commis à aux barrières. On les voit la nuit, hein, la nuit, quand les gens passent, bien sûr, le couvre-feu commence à 23 heures, mais il y a toujours des mesures comme ça. On voit les barrières érigées partout, mais les gens passent, ils donnent quelques billets et ils passent sans problème. Donc, tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels nous devons quand même insister, mais la question de la communication reste tellement importante. J'ai salué l'initiative qui a été prise la fois passée par la Banque mondiale et tous ses partenaires, le ministère de la Santé, pour organiser une réunion effectivement de consultation sur la communication. Et ça, c'est très important d'associer la société civile à ce genre de réunions afin que nous puissions donner notre voix. Mais nous avons dit qu'il y a des mesures qui sont prises, notamment toute cette question d'évaluation permanente de la question des COVID, de l'évolution et tout. La société civile n'est pas associée. Il y a les autres parties prenantes sont associées, mais la société civile n'est pas clairement associée à ces débats. Nous voulons qu'on nous associe d'une manière structurelle dans ces débats. Et nous allons continuer. Plusieurs personnes veulent bien contribuer à cette communication, mais en même temps, ils lâchent parce que la communication demande aussi une certaine prise en charge des communicateurs qui doivent faire ce travail. Parce que jusque-là, les stéréotypes restent, les croyances restent, les médias. L'autre fois, j'ai dit, il faut une armée quelconque par rapport à l'Internet. Il faut que nous ayons une stratégie de communication Internet par rapport aux réseaux sociaux. c'est les communicateurs qui nous poussent. Vous savez, ici, quand on voit certains occidentaux qui parlent du négatif sur la maladie, les gens pensent que c'est vrai et ils se fient à ce qui est dit. Et là, ça devient dommage parce que plusieurs personnes véhiculent des messages qui ont été montés je ne sais où par des négationnistes et ils veulent faire croire que c'est ça la vérité. Donc, il y a à boire et à manger dans toute cette histoire et il faut que vraiment la population puisse être amenée à travers des réseaux sociaux par des messages contradictoires à ceux qui sont véhiculés pour monter. Et ça, c'est facile. Le gouvernement, il y a beaucoup d'influenceurs des réseaux sociaux. Ils doivent être associés à ces mesures. Et comme ça, ensemble, ils vont faire passer par des canaux qu'ils connaissent. Parce que aujourd'hui, la question de la communication n'est pas seulement une communication classique telle qu'on la connaît, mais il y a tout le modèle. Il y a des révolutions de la communication. Les jeunes ont plus d'outils de communication que les aînés. Et il faut se fier à eux. Même les enfants, ils savent comment ils communiquent. Donc, il y a une sorte de communication, des messages par rapport aux cibles et ces messages, et ces personnes, ces influenceurs doivent être intéressés par rapport à ça et le gouvernement doit tenir compte de cela. Donc,
alors,
on
vous garde en ligne, Danny Singoma, le temps pour nous de prendre cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, au Nord Kivu.
Timothée Mouindo Mukomulere, depuis Goma, au Nord Kivu. Notre gouvernement doit savoir prioriser la santé pour bien faire une réponse sérieuse. Il est plus que temps de mettre du sérieux dans la gestion de cette pandémie et non copier d'autres pays qui ont des conditions sanitaires différentes que le nôtre. La communication jusque-là cause problème. Le gouvernement doit passer à impliquer toutes les couches, à commencer par les relais communautaires, les leaders religieux, les députés nationaux, les sénateurs, à servir d'exemple à ces faisables vaccinés. La logistique et les finances causent aussi problème dans ce domaine. Le milieu de dollars et le financement sont médiatiques que pratiques. Il est temps pour notre gouvernement de donner le bourse d'études aux jeunes étudiants, surtout dans le domaine de la santé publique et équiper nos hôpitaux, car jusque-là, la santé n'est pas encore une priorité pour notre pays.
Dali Singo, ma brève réaction.
De Goma, que je salue, de Nord Kivu, que je salue très bien. Et il faut effectivement que les autorités, que tout le monde puisse servir d'exemple en se faisant vacciner, ça c'est une chose. Mais il y a aussi des gestes symboliques qui peuvent compter. Et je vis par exemple dans d'autres pays, on met en place des VIX, des bus dans des lieux publics pour les vaccins. Il y a des curieux qui viennent, ils s'informent et ils se font vacciner. Donc nous devons avoir des sortes de lieux qui sont des vaccinodromes, des bus comme ça qui circulent dans les écoles. Partout, on met en place un système comme on le fait parfois avec la sensibilisation sur le sida. On essaie de mettre en certains endroits, on met des centres de dépistage et tout. Donc, on peut le faire aussi pour la question de COVID. Donc, il faut amener les gens à s'habituer, à être accoutumés, à voir ce genre de dispositifs. Et petit à petit, ça permet de se rapprocher, même par curiosité, pour savoir. Et quand on a vu quelqu'un passer, qu'on connaît bien, qui s'est fait vacciner, qui vient de là, on sent que ce n'est pas dangereux et on peut y aller. Et puis après, moi, j'insiste toujours sur deux choses. Notre gouvernement devait lutter aussi pour le moratoire sur la propriété intellectuelle par rapport au vaccin avec les autres pays africains pour pouvoir arriver à produire des vaccins moins chers, que le gouvernement lui-même puisse être sûr de la qualité de ses vaccins et non enrichir simplement les firmes pharmaceutiques occidentales. Je suis très curieux de voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud, un pays du Sud qui s'est donné dans la vaccination, qui produit des vaccins, et puis après, dès que ces variants arrivent, tout le monde les met comme un paria et tout, ça a été mal vu, mais heureusement que cette communication est bien passée, le président sud-africain c'est bien investi, le peuple sud-africain et tout. Et aujourd'hui, on a vu qu'on a réouvert les lignes aériennes. Ça veut dire que quand les autorités s'impliquent, ils peuvent obtenir des grands succès. Et ici aussi, on a vu, quand le président de la République s'est fait vacciner, aussi les gens commencent à croire que le vaccin est accessible. Jusqu'aujourd'hui, ça ressemble comme quelque chose donné à une classe quelconque, à la classe des élites, à la classe des ministres, à la classe des gens qui travaillent dans les organismes internationaux, alors qu'on devait arriver à faire voir que le vaccin est accessible à tout le monde et que tout le monde est concerné. Et aussi,
merci.
Il faut qu'on valorise aussi les soins les soins curatifs par rapport à ces vaccins et par rapport à la maladie Covid, moi je pense que c'est très important que nous puissions soutenir nos scientifiques locaux en fait de produire des médicaments qui peuvent guérir.
Docteur Jules Kiatosi, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bokungu dans la province de la Tchouapa.
C'est Gilbert Lokwalondo. Je vous appelle depuis Bokungu dans la province de la Tchouapa. Ce qui est vrai est que la population congolaise doute encore de l'existence de cette pandémie sur le sol congolais. Étant donné que le gouvernement congolais, à travers ses services spécialisés, n'arrive pas à convaincre cette population sur l'existence de COVID-19 en RDC, tout ce qu'il peut faire est nul et sans effet. À mon avis, la communication reste la mesure la plus efficace que le gouvernement congolais peut prendre pour limiter la propagation du nouveau variant en République démocratique du Congo. Car depuis le début de cette pandémie en RDC, nous l'avons dit à l'époque et nous continuons à le dire que sur le terrain, il y a un déficit au niveau de la communication. C'est pourquoi la population est mal informée et n'arrive pas à respecter les mesures édictées par le gouvernement congolais pour limiter la propagation directe.
Docteur Kiatosi, ce problème de communication revient plusieurs fois dans les analyses. Pourquoi ce déficit au niveau de la communication?
Pourquoi il y a déficit? Je crois qu'au début, la lutte était verticalisée. C'était une affaire des partenaires et autres. Mais depuis un temps, nous avons intégré la lutte contre COVID-19 dans nos zones de santé. Et pour utiliser les relais communautaires, pour utiliser toutes ces structures qui sont à tous les niveaux, au niveau des zones, au niveau provincial. Et voilà, c'est ce qui nous a permis de pouvoir arriver à stabiliser, arriver à ces taux de mortalité de 1,9%. Hein, donc il convient de ne pas dire que le gouvernement ne fait rien, parce que si vous regardez notre taux de mortalité, je pense que nous avons un taux qui est faible par rapport à d'autres pays. C'est que nous avons quand même bien mené la lutte pendant les trois phases, les trois vagues précédentes. Alors, pour ce qui est, il y a des défis, nous le savons, les défis majeurs de cette pandémie, c'est les refus d'acceptation des vaccins par la majorité de notre population. Et pour cela, et aussi les non-respect des gestes barrières. Mais pour cela, nous sommes en train, il y a tout un plan qui est mis en place et nous croyons que nous allons ensemble relever les défis. Et si vous arrivez à vous parcourir la commune de Gombe, vous allez trouver déjà des points de vaccination contre COVID-19 et nous sommes en train de multiplier ces différents points un peu dans toutes les zones de santé pour rapprocher davantage les services de vaccination à la population. Mais il convient de dire que nous ne devons pas baisser les bras. La lutte, c'est une lutte de tous les instants. Hein, il y a la pandémie, c'est l'affaire de nous tous. Et aujourd'hui, quand les gens parlent du gouvernement, c'est comme s'ils se mettent un peu à l'écart. Non, nous devons nous dire c'est l'affaire de nous tous pour avancer. Et voilà ce que je pouvais dire à notre auditeur de la Tchouapa, mais qu'il sache que le gouvernement il a mis à notre disposition une gamme variée de vaccins. Aujourd'hui, la RDC dispose de gammes variées grâce à notre gouvernement. C'est pour dire que le gouvernement fait des efforts, mais chacun de nous doit aussi voir comment mettre la main dans la pâte pour que nous puissions avancer. Les députés, les sénateurs, les hauts magistrats, eh bien, il y a eu des séances qui ont été organisées en leur faveur pour les encourager à la vaccination. Voilà. En résumé, c'est que le gouvernement est en train de faire dans le cadre de la lutte.
Docteur Michel Mouvoudi, nous sommes à la fin de notre émission. Comment vous répondez aux préoccupations de Danny Singoma lorsqu'il dit, par exemple, on a l'impression que la vaccination, c'est pour une certaine catégorie des personnes. Lorsque vous allez dans la périphérie ou dans les communes où il y a beaucoup de monde, ou même dans les provinces, la population semble ne pas être associée, les gens semblent ne pas être intéressés par cette vaccination. Comment on peut expliquer cela?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Non, je voulais d'abord en passant saluer M. Dany et lui dire un grand merci parce que la société civile a participé avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme à la consultation que nous avions lancée avec le groupe de la Banque mondiale et dire justement qu'il a raison. En fait, le constat majeur, Mme Kelly, est que nous ne faisons pas de la communication de proximité. Comme vous le savez bien, la communication autour de la vaccination est restée une communication dans les réseaux sociaux, dans les médias, mais vous savez que plus de 80% de la population en RDC, en fait, n'a pas accès à la communication via les réseaux sociaux ou via les médias. Donc la résolution qui est sortie, c'est de pouvoir beaucoup se rapprocher des communautés, d'utiliser les réseaux communautaires, d'utiliser une communication de proximité pour que les gens comprennent. Ce que vous voyez aller se faire vacciner, c'est des gens comme vous et moi qui suivaient la télé, qui avaient étudié, qui comprenaient pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner et qui avaient un sens de discernement. C'est comme ça qu'il faut déplacer les curseurs vers une communication de masse, une communication de proximité, et vous verrez que la population va se faire vacciner. Ça, d'une part, c'est une question de soulever la demande périphérique. D'autre part, il faut qu'il y ait de l'offre. Encore une fois de plus, il y a des gens qui ont la volonté de se faire vacciner, mais quand vous dites à quelqu'un de quitter Massina, de venir à la place des évolués, ou de quitter chez lui, ou d'aller quelque part, où malheureusement, des fois, vous arrivez le matin, mais c'est à midi ou le soir qu'on vous vaccine, vous savez bien que ici chez nous, les gens vivent au jour le jour. Ce coût d'opportunité devenant grand parce que je vais perdre toute une journée à attendre que mon tour de la vaccination arrive, mais ça aussi, c'est un élément qui freine. Donc, le ministère de la Santé, sous le leadership du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, travaille fortement pour améliorer l'offre. Et ça, c'est une très bonne chose. Il faut les soutenir. Mais je crois que, encore une fois de plus, c'est une action collective, à la fois qui demande qu'on stimule la demande. Donc tout ce que nous pouvons faire, ce que vous faites, Madame Kelly, avec la radio Capi, ce sont des actions qui vont stimuler la demande, d'une part, et d'autre part, c'est de déployer suffisamment la vaccination dans les provinces. Moi, je viens de la province du Kasaï central, à Kananga. Ben, on n'a pas encore commencé la vaccination. Donc il faudra aussi que lorsque les gens vont dire d'accord, on va se faire vacciner, qu'il y ait des sites proches et pourquoi pas, imaginez si nous avons des vaccins pour lesquels on peut contrôler les mappies, faire du porte-à-porte. Encore une fois de plus, le chemin est encore long. Nous devons y travailler et nous devons y travailler collectivement.
Docteur Michel Mouvoudi, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Danny Singoma, on va vous demander aussi de conclure. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au ministère de la Santé pour améliorer la gestion de la pandémie en RDC?
Nous, au niveau de la société civile, nous sommes en train de peaufiner notre stratégie qui s'appelle 75, afin de mobiliser 75% de la population pour la vaccination. Mais cela mérite d'être soutenu. Ce que je vais demander au ministère et à tout le monde, c'est de faire en sorte qu'effectivement de rapprocher la population par des méthodes de communication plus actives, mais aussi il y a une étude qui devait être menée, dont le ministre ancien a été en train de parler de l'étude sur l'immunité collective. Moi, je pense que cette étude devait être encore menée. Et puis après, il faut mener les études ou alors voir pourquoi la population a été, disons, a résisté par rapport à cette pandémie, de savoir quelles sont les pratiques qui ont été utilisés par la population pour se prévenir de cette maladie, et on doit encourager cette pratique. Peut-être que par nos plantes, par notre mode d'alimentation et par nos racines et autres choses, nous avons des capacités qui dépassent les vaccins. Il faudra privilégier cela, qu'on fasse une étude sur cela et encourager ces méthodes qui sont endogènes afin que nous puissions nous prémunir davantage. Mais aussi pour cette question de vaccination, donc j'ai rejoint tous les autres qui ont parlé et dire que vraiment c'est bien de rapprocher par des méthodes, d'avoir une méthode de communication par Internet, de soutenir les influenceurs et surtout de soutenir la société civile, le cadre de concertation, dans son programme 75, objectif 75, afin que nous luttions ensemble contre cette pandémie.
Merci Dani Singoma. Docteur Jules Kiatosi, vous allez aussi conclure. La vaccination n'est pas encore effective dans toutes les provinces de la RDC. Pourquoi?
Elle n'est pas effective dans toutes les provinces parce qu'il fallait agir là où l'épidémie, les provinces qui étaient touchées, plus touchées. Et nous sommes en train de déployer les moyens pour que le vaccin soit accessible partout. Et actuellement, comme nous l'avons souligné, les grands défis, c'est par rapport à l'acceptation de vaccins par notre population. La couverture est encore faible et nous invitons la population à se faire vacciner. C'est le seul moyen pour combattre contre cette pandémie. Nous remercions la radio Okapi. Voilà, ce sont ces initiatives qui vont permettre de faire circuler la bonne information à la population et éviter toutes sortes de rumeurs et de la peur des effets secondaires. À un moment donné, la population, on a pu ressentir au niveau de la population la peur des effets secondaires, mais sinon le vaccin procure plus de bénéfices. Donc merci Radio Okapi, merci les auditeurs. Sinon le ministère de la Santé est toujours disposé à être à vos côtés, à vous accompagner dans cette grande lutte.
Merci docteur Jules Katosli, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde. La réalisation de cette émission est assurée par Donna Madimba. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.